Bonjour, je suis Julie Gertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre des métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je reçois Cyril Rigaud, un des entraîneurs de l'équipe de France de gymnastique artistique masculine. Cyril est né et a été biberonné sur les tapis. La gym, c'est toute sa vie. Alors il l'a bien sûr pratiqué au niveau, mais très vite il s'est aperçu que ce qu'il aimait avant tout, c'était surtout transmettre. Le métier d'entraîneur est donc venu à lui très naturellement et il a la chance de l'exercer désormais dans l'un des plus beaux endroits de France, c'est-à-dire l'INSEP. Alors pour clôturer ce triptyque sur le sport de haut niveau, nous avons beaucoup discuté avec Cyril de ce rôle de chef d'orchestre qui organise toute la montée en compétences de l'athlète et sait s'entourer des meilleurs experts au service de la performance. De l'impérieuse nécessité aussi de prendre en considération l'individu pour adapter les programmes mais aussi les modes de communication à chacun des membres. Et du couple aussi athlète-coach, un peu de ce rapport maître-élève mais qui peut très régulièrement s'inverser. Et puis aussi de ce rôle parfois d'éducateur, notamment sur les équipes plus jeunes. Et puis tant d'autres sujets que je vous invite à très vite découvrir dans l'épisode. Cyril, mille merci de ton accueil et de ta disponibilité. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à Cyril Fontbonne d'avoir permis notre rencontre déjà, et bien sûr à l'INSEP de nous avoir accueillis dans ce lieu vraiment magique. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, n'oubliez pas de le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute de cet épisode. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Un grand merci de me consacrer ta pause déjeuner pour nous parler de ton métier d'entraîneur sportif de l'équipe de gymnastique artistique masculine, GAM. Alors avant de démarrer, je souhaiterais prendre 2 secondes pour remercier l'INSEP déjà, dont tu as rejoint les équipes. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises dans cette introduction et qui nous accueille très très gentiment aujourd'hui pour effectuer l'interview. J'avoue être super impressionnée et de voir tous ces dispositifs, etc. C'est incroyable de voir tout ça et d'avoir cette chance-là. Donc un grand merci à toi et à l'INSEP. Et puis aussi, bien sûr, remercier Cyril, que je viens d'interviewer. Donc, je viens juste de terminer son interview et qui a permis notre rencontre. Alors, Cyril, si tu es prêt, il ouvre des grands yeux. Je te propose de démarrer tout doucement en repartant quelques années en arrière. Et je serais très curieuse que tu nous décrives le petit garçon que tu étais et le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit.
Alors, ce retour en arrière, c'est un peu marrant. Mon père était entraîneur de gymnastique. Donc, j'ai pris le biberon dans le gymnase, j'ai appris à marcher sur des tapis. Et il était aussi employé par la municipalité de Blois. Et à ce titre, il intervenait sur d'autres disciplines. Donc, c'est pour ça que j'ai goûté beaucoup de sports quand j'étais jeune. J'ai fait un peu d'athlée, un peu de basket, du volley. Voilà, je touchais un peu à tout. Par contre, il y a eu un retour au gymnase qui s'est opéré naturellement parce que ça bougeait pas assez, en fait. Il n'y avait pas assez d'acrobatie, la tête à l'envers. Ça, moi, ça me plaisait bien de me jeter un peu dans tous les sens, sur les tapis. J'étais un peu hyperactif, donc il fallait canaliser tout ça. Et c'est pour ça que je me suis vraiment orienté sur cette discipline. Par contre, le métier que je voulais faire quand j'étais petit n'a rien à voir avec celui que j'exerce aujourd'hui. Je voulais faire vétérinaire.
Voilà, classique vétérinaire, souvent, ça, ouais, c'est un métier.
J'aimais bien les animaux. Et du coup, voilà, j'ai été athlète de haut niveau sur les listes du ministère, dans les collectifs juniors et seniors. Et après les Jeux de 2004, donc moi, je n'ai pas participé aux Jeux. J'ai fait partie des collectifs, mais je n'ai pas été assez fort pour faire partie de ces équipes de France. Et j'ai décidé de me réorienter, donc d'entamer ma reconversion socio-professionnelle. J'avais fait un stage en établissement pour le CAPEPS, parce que je voyais les bons côtés avec les vacances scolaires que je n'avais pas eues forcément pendant ma carrière. Et vite, j'ai déchanté parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce métier que je voulais faire. Entre ce qu'on voit d'extérieur avec les avantages et ce qu'on vit au quotidien, faut faire attention parce que l'idée, c'est de se lever tous les matins en ayant la banane et avoir envie de faire pour s'épanouir. Et du coup, j'ai commencé à passer mon brevet d'État, premier degré, deuxième degré. Et là, effectivement, il y a eu un petit déclic, ne serait-ce dans les formations où on transmettait en fait notre passion et les enseignements qu'on nous a transmis également. voilà, c'est un peu un rôle de passeur et c'est ça qui m'a surtout plu en fait.
Ok, et quelles ont été les étapes jusqu'à devenir entraîneur en fait ? Et comment tu as découvert ce métier et comment, voilà, comment tu es allé jusque-là au poste que tu occupes aujourd'hui en fait ?
Alors d'abord, j'ai commencé, on va dire, dans le secteur de l'animation. L'idée de l'animation, ce n'est pas beaucoup d'heures par semaine. Hein, c'est une heure, deux heures, ça dépend des publics. Et là, déjà, c'est uniquement la passion qu'on essaye de transmettre. Hein, les sensations d'acrobatie, elles viennent tout doucement. C'est surtout de la locomotion, un peu trampoline. Mais par contre, ce qui était riche dans cette expérience, c'est de faire ça avec des publics qui partaient de 5 ans. Et qui allait jusqu'à des adolescents, voire même des cours adultes que je faisais le soir. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre qu'il y a une passion, donc c'est un fil conducteur. Après, il faut adapter un peu son discours et les contenus aux différents publics. Donc ça a été la première étape. Ensuite, il y a eu donc une reconversion qui a été faite à l'INSEP, d'ailleurs, qui m'a permis de préparer le professorat de sport dans les meilleures conditions. Donc l'idée, c'était un peu la même voie, entre guillemets, que le CAPEBS, parce que c'était un concours de la fonction publique, mais avec des missions qui étaient beaucoup plus adaptées à mon vécu et à ce que je souhaitais transmettre, en fait. Et par contre, ce qui était un peu inattendu, c'est que l'année où je voulais passer le professorat, il n'y avait pas de poste pour exercer ce métier dans la Fédération française de gymnastique. Et je me suis orienté, une fois que j'ai réussi le concours, dans l'administration.
D'accord.
Donc, c'était vraiment une prise de hauteur avec des missions hyper intéressantes. Et ça me convenait parce que, en fait, depuis que j'étais tout petit, j'étais dans un gymnase, j'ai mangé gym, dormi gym, rêvé gym. Et là, ça m'a vraiment permis de voir autre chose. Donc, j'ai travaillé avec d'autres disciplines en tant que conseiller d'animation sportive. Donc, la mission, c'est de conseiller et d'aider tout le développement des politiques sportives, hein, auprès des comités départementaux ou des clubs locaux. Alors, j'étais basé à Alençon, qui est une très jolie ville en Normandie. Et donc là, ça m'a appris...
D'où le Pont-l'Évêque de tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Enfin, j'ai appris aussi à bien apprécier les bons produits locaux. Hein. Et du coup, aussi à tisser un lien avec un réseau associatif. Parce que honnêtement, c'est bien d'être dans la gym passionné, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres manières de voir les choses. Et ces deux années, en tout cas, elles ont été hyper enrichissantes. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Après, le naturel revient au galop, c'est-à-dire
qu'il fallait que tu bouges.
Fallait que je bouge, fallait que je sois sur pas très loin d'impraticable. Et il y a eu une opportunité avec un départ à la retraite et j'ai pu regagner en tout cas le terrain en région centre, c'était ma région natale. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller sur le pôle France à Lyon pour exercer vraiment les missions de l'entraînement. Et de là, en fait, cette carrière d'entraîneur a débuté. Et aujourd'hui, voilà, je suis à l'INSEP.
Alors, est-ce que tu peux, pour des néophytes que je suis, hein, complètement, je suis la parfaite ambassadrice, nous expliquer ce que c'est l'INSEP, qui vient à l'INSEP, qu'est-ce qu'on y apprend, est-ce qu'il y a toutes les disciplines, qu'est-ce que permet cette structure, quelle est sa vocation, etc.
Donc en fait, l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Et il est placé sous la tutelle du ministère chargé des sports.
Sa mission, en fait, c'est vraiment d'être un centre ressources, de mobiliser toutes les ressources, les expertises autour de l'athlète, puisque c'est lui qui est le vecteur de performance, mais également de tout l'encadrement, les entraîneurs et tout le staff, hein, parce que maintenant, les staffs, ils sont hyper complets, hein, qu'on voit l'équipe médicale, préparateur physique, préparateur mentaux, etc. Et l'idée, voilà, c'est de travailler un peu en transversalité avec d'autres disciplines. Hein. Alors, en priorité, il y a des disciplines olympiques hein, pour préparer les échéances comme les Jeux olympiques, championnats du monde, championnats d'Europe, dans les meilleures conditions. Okay. Sachant que le niveau international fluctue extrêmement vite. Il faut vite s'adapter. Il faut presque avoir un coup d'avance sur les autres. Et du coup, l'avantage d'être... un peu dans ce berceau où il y a des disciplines, des experts de tous les domaines, ça permet vraiment d'être dans cette culture à créer, à essayer de se questionner sur le lendemain de la performance. Et ça, c'est hyper enrichissant.
Bon, j'imagine à quel point ça doit être passionnant de le vivre en plus en préparation des JO 2024. Mais ça, on va en reparler. Il y a toutes les disciplines sportives ici. Il n'y en a que certaines. Bon, je vois la gym à côté de moi. Donc voilà. Mais j'ai vu l'athlétisme, judo, karaté.
Là, on est dans
karaté.
Une salle où il y a la lutte, il y a le taekwondo, il y a l'escrime. Badminton, tir à l'arc, l'athlé, natation sportive, aussi natation synchronisée. Après, ouais, il y a l'aviron. Alors, moi, je viens d'arriver, donc j'apprends aussi à connaître les collègues et j'espère aussi mobiliser leurs expertises parce qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire avec l'athlé. Nous, on a le saut de cheval dans notre discipline sur les techniques de course, le pré-appel.
On en parlait tout à l'heure avec Cyril, cette transversalité, et puis ces ponts de traverse peuvent être super enrichissants.
Les différentes cultures aussi peuvent nous apporter, la culture de l'effort. Non, c'est vraiment intéressant.
Ok, alors donc toi, ton rôle exact, c'est donc d'être entraîneur de l'équipe de GAM, donc gymnastique, artistique, masculine. Ça correspond à quoi, justement, la GAM ?
Alors, la gymnastique artistique masculine, hein, ce qu'on nomme la GAM, c'est une discipline avec 6 agrès. Alors, dans l'ordre olympique, il y a le sol, les arçons, les anneaux, saut, barre parallèle, barre fixe. Dans chaque agrès, les gymnastes sont tenus de présenter des mouvements composés d'éléments qui sont répertoriés dans un code de pointage. Mm-hmm. Ça permet d'hiérarchiser en fait les éléments en termes de difficulté. Plus il y a de difficultés, plus leur note de départ augmente. Et ensuite, ils présentent leurs mouvements devant des juges qui, eux, vont évaluer la prestation avec une note d'exécution. Et du coup, ils font la somme avec la note D, donc de difficulté, et la note E d'exécution pour faire une note finale.
Il n'y a pas de note artistique ? Genre
en fait,
la beauté quoi,
cette note artistique, c'est la note d'exécution. Par exemple, une demi-pointe qui n'est pas tendue ou une jambe
D'accord.
qui est un peu fléchie, ça peut aller jusqu'à de 1 dixième, ou c'est une petite faute, à 3 dixièmes, un peu plus grosse. Une faute grossière, c'est 5 dixièmes. Et quand il y a une chute, c'est 1 point et ça fait très, très mal. Ça va très, très vite en tout cas.
Ouais, tu peux très vite être décoté, quoi, en gros, c'est ça.
Le gym prépare pendant 10 ans, il fait 10 000 heures de pratique pour se lever sur un passage. Le saut de cheval, ça dure 5 secondes. Le sol, ça dure 1 minute 10. Et toute sa prestation, toute sa préparation, ça ne dure pas tant de temps que ça.
C'est vertigineux, en fait, voilà. Hein, ce que tu dis, l'écart, en fait, et à quel point la gestion du stress doit être super importante. Et bon, ça a fait l'objet aussi de pas mal de discussions avec Cyril juste avant. Est-ce que tu peux nous décrire quand même en quelques mots, quelques phrases, ton métier ? À quoi ça correspond d'être entraîneur aujourd'hui ? Et finalement, quel est ton objectif vis-à-vis d'un sportif de haut niveau ?
Alors, le métier en lui-même, entraîneur, c'est déjà accompagner en fait un athlète dans sa performance. On va commencer par l'aspect sportif. Son projet de performance, beaucoup d'athlètes ont le rêve de faire les Jeux Olympiques, hein, de participer.
C'est le but ultime, ça ?
C'est un peu un but ultime. Après, il y en a, ils voient très loin. D'autres, ils préfèrent voir étape par étape. Donc, il y en a certains, c'est juste s'épanouir dans leur discipline, augmenter leur note de départ, acquérir de nouveaux éléments. Par contre, d'autres, ils ont besoin de se frotter un petit peu à l'adversité, ils aiment bien la compétition, ils ont besoin de se mesurer à l'international. Donc, voilà, ça, selon les athlètes, ce n'est pas forcément la même approche. Mais par contre, l'idée, que ce soit c'est être le meilleur hein, à la fin. Donc, notre rôle en tant qu'entraîneur, déjà, c'est la formation. Si on commence vraiment par le plus jeune âge, c'est la formation de base sur tous les plans. Hein, formation au niveau physique, donc il y a tout ce qui est souplesse.
Quoi ?
La souplesse.
non, je rigole, je me moque de moi-même. Là. Je ne connais pas ce terme.
Les amplitudes articulaires, mais c'est quelque chose qui se travaille avec douceur dans le temps. Hein, faut être patient. Après, il y a tous les renforcements, que ce soit au niveau du gainage, les abdos, les dorsaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est un petit peu plus spécifique à notre discipline. C'est une discipline qui est autoportée, c'est-à-dire que les athlètes portent leur poids de corps. Et du coup, ce rapport poids-puissance, il est hyper important. Donc, il y a beaucoup de placements, de postures à apprendre au plus jeune âge pour faciliter leur évolution technique.
Ça me fait penser à une question. Là, tu dis que puisqu'ils supportent leur propre corps, il y a quand même une élimination naturelle de stature, des morphologies qui ne peuvent pas aller prétendre à faire cette discipline parce que trop lourd, tout simplement.
Alors là, Julie, c'est une excellente remarque. Après, je ne pense pas qu'on puisse être rédhibitoire. En Russie, effectivement, ils font une détection presque sans état d'âme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une période, ils voyaient presque même la main, comment elle était faite par rapport aux prises.
Pour prévenir.
Par rapport au parallèle, la barre fixe, etc. On va dire que... Nous, on est un peu plus dans l'ouverture. C'est un peu comme les Anglo-Saxons. On voit différents gabarits qui font de la haute performance. Donc, ce n'est pas non plus rédhibitoire d'avoir quelqu'un de grand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le gym sera petit, avec un centre de gravité proche du sol, équilibré au niveau de ses bras. S'il a des bras trop courts, c'est difficile pour les arçons. S'il a les chevilles un petit peu verrouillées, ça va être difficile pour le sol, les pieds plats. Enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte par rapport à son évolution technique.
Ouais.
Et aujourd'hui, on le voit...
Il y a potentiellement un plafond qui pourrait atteindre peut-être plus vite que les autres sur cette partie-là.
Alors, il y a déjà le plafond au niveau de sa progression, mais il y a aussi la longévité, c'est-à-dire que le gabarit qui n'est pas adapté pour les contraintes, on va dire, biomécaniques et physiologiques de notre discipline, au lieu de finir sa carrière à 30, 35 ans, il va finir avant. Il va avoir mal partout.
Ou se faire des blessures parce qu'il va trop forcer, quoi. C'est ça ?
Donc, c'est exactement ça. Donc,
super intéressant. Bon, je découvre.
Oui, il y a une petite sélection naturelle, mais après, je pense que la passion fait que quelqu'un qui adore cette discipline, il faut l'encourager. On est une discipline où on ne peut pas dire qu'on déborde non plus de pratiquants. Donc, je pense qu'il faut aussi donner le goût à vouloir revenir et aller le plus loin possible, voire à transmettre aussi également à son tour.
Et alors, est-ce que tu as pu observer, toi, une évolution dans ton métier ? Je ne sais pas depuis combien de temps tu l'exerces. C'est une façon détournée de te demander ton âge.
Presque une quinzaine d'années.
D'accord. Donc, tu as vu des évolutions, j'imagine. Alors,
j'ai vu des évolutions. Après, je pense que je n'ai pas la même prise de recul que ceux qui l'exercent depuis beaucoup plus de temps.
Mm-hmm.
Ça serait intéressant de poser la même question à des gens qui ont 40 ans d'expérience. Oui. Mais pour avoir échangé un petit peu avec mon papa qui était éducateur, ce n'est pas tout à fait le même métier. C'est plus orienté sur de l'animation. Je faisais un peu d'entraînement, mais pas dans une structure de niveau. Mais il m'a quand même témoigné que ces dernières générations étaient pour lui un peu plus difficiles quand même à driver, à piloter. Et ça, on peut faire des analyses au niveau de la société. Hein. Ça zappe un petit peu plus, ça veut vite des résultats. Il y a aussi une culture de l'acceptation de l'effort qui est en train de se dilapider. La gym, ça demande du temps, de la patience, il faut digérer des choses, il y a des caps à passer, des étapes. Donc, des fois, il faut presque accepter de faire deux pas en arrière pour avancer. C'est pour ça que je vais même aller... pour répondre à ta question, entraîneur, comment je le vois, mais c'est aussi éducateur aussi, parce que en fait, on éduque à certaines choses. On transmet des valeurs, on transmet une manière de voir les choses, une philosophie. Et ça, je pense qu'il faut le faire en parallèle avec tout ce qu'on donne en termes de technique, physique, etc. Sinon, ça bloque.
Alors, c'est super intéressant. Je ne pensais pas du tout que tu allais me répondre cette partie-là. Et je trouve ça très intéressant. Et je pensais plus à une évolution aussi de métier liée à des techniques. Parce que tu dis que les choses évoluent très vite. Et d'ailleurs, ça demande une veille perpétuelle pour pouvoir se remettre en cause perpétuellement dans sa technique, dans les outils utilisés, dans les méthodes utilisées. Est-ce que ça, oui, tu as senti qu'il y avait une évolution aussi sur ces aspects-là ?
L'évolution, elle est aussi au niveau des technologies. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de ça 25 ans, on n'avait pas les mêmes moyens. Mmh. Aujourd'hui, l'INSEP, là, on a la chance d'avoir été doté, je dirais, d'une dizaine de caméras avec des télés qui permettent au gym, dès qu'il va passer sur l'agrès, à regarder sa vidéo presque instantanément ou avec un décalage de 20 secondes. Après, on peut organiser justement la séance par rapport à ça. Soit on décide, le gym, il finit son passage, il regarde et après, on lui donne des consignes ou on peut faire l'inverse, où on scrute un peu son ressenti par rapport à son passage et après, on se met d'accord par rapport à ce qu'il a fait en réalité pour voir s'il y a une différence entre sa représentation interne et ce qu'il a fait extérieurement. Effectivement, là, il va y avoir une adaptation du métier par rapport à ça.
Ok. Et alors, quelles sont toutes les techniques ou les outils un peu que vous pouvez utiliser, vous, en tant qu'entraîneur, auprès de vos sportifs de haut niveau ? Est-ce qu'il y a des outils particuliers, des méthodes particulières ?
Alors, les méthodes, en fait, on a eu une formation. On nous apprend un petit peu la méthodologie de l'entraînement. C'est les principes de progressivité, la dynamique des charges. En fait, il faut organiser notre semaine pour faire en sorte que l'organisme il soit un petit peu stressé. Parce que s'il n'y a pas un micro-stress qui est mis en place, l'organisme ne va pas s'adapter. Il ne va pas répondre à une adaptation fonctionnelle pour gagner de la force, de l'endurance, etc. Donc déjà, il y a toute une organisation un peu méthodologique à mettre en place. C'est comme quelqu'un qui va faire de la cuisine, il va rassembler déjà tous les ingrédients pour faire son gâteau. Après, il y a la manière de préparer. Il y a des temps à respecter, temps de cuisson, mettre au frais, etc. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que au niveau de la technique, nous, on a été formés, mais on nous a transmis des choses. Moi, j'ai eu beaucoup de mentors. Anatoly Vorontsov m'a apporté beaucoup de choses à Lyon, et notamment sur la base, où si on brûle les étapes, qu'on veut passer un étage supérieur un peu trop tôt, on peut le payer.
Par une blessure.
Alors, c'est soit une blessure ou bien ça peut être juste une évolution technique qui ne va pas forcément être fructueuse. Et tôt ou tard, on aura le besoin de revenir en arrière. Donc, déjà, il y a toute cette méthode à prendre son temps. C'est un peu un travail d'orfèvre, en fait. Il faut y aller étape par étape et il faut respecter aussi la singularité des individus. Donc là, je vais partir sur un autre domaine. C'est plus l'aspect un peu psychologique, mental. Donc là aussi, on a eu des formations là-dessus pour nous expliquer que chaque personne est vraiment singulière à sa manière de fonctionner. Son cerveau, il y a un livre qui dit « Chacun son cerveau, chacun sa réussite », mais il ne faut pas voir la réussite comme quelque chose de figé, en fait. C'est quelque chose qui se construit par rapport à l'individu qu'on a en face de nous. Et puis, là, il y a une chance quand même à l'INSEP, c'est que de toute façon, on ne peut pas être expert dans chaque domaine, c'est impossible. Et si on veut, par contre, tendre vers la haute performance, on est obligé de s'entourer des meilleures ressources. Et du coup, c'est bien de faire un petit tour d'horizon sur ses propres points forts et ses propres points faibles. Et là où on est un petit peu fébrile, on va dire, c'est là, par contre, de faire intervenir des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que nous et qui permettent à l'athlète d'avancer le plus loin.
Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'autres corps de métier que...
Alors déjà, sur l'INSEP, il y a un laboratoire de biomécanique. Ils font toutes les analyses au niveau vidéo. Ensuite, il y a quelqu'un qui fait la préparation physique. Voilà, Clément Bouchonnet. Et là, effectivement, quand je suis arrivé, les athlètes, ils étaient en période de reprise. C'était un petit peu dur. Et tout de suite, on a mis en place des protocoles de renforcement, un peu de la prophylaxie, on appelle ça, de la prévention pour pas que les blessures arrivent. Et c'était hyper efficace. Je n'aurais jamais eu cette créativité sur le nombre d'exercices proposés. Et puis, ça m'a demandé moins d'énergie. Le fait de travailler directement avec cette personne, ça crée un lien. En plus, ça permet à une tierce personne de venir donner des conseils aux athlètes. Donc, du coup, ça relance un peu une dynamique relationnelle. Alors que si on est tout le temps exclusif avec l'athlète, c'est fatigant pour les deux, en fait. Donc, c'est bien de s'entourer de personnes et de faire une petite marche arrière. Après, ce qu'il faut, par contre, c'est trouver l'équilibre pour garder le pilotage du projet de performance.
Oui, alors tu parlais effectivement, j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est préparateur mental. Enfin voilà, il y a toutes ces personnes-là qui peuvent vous entourer. Et oui, et toi, du coup, ton objectif, c'est de garder en fait une vision globale pour être un peu le chef d'orchestre de cette performance. Ouais. Donc d'aller chercher en fait les bons experts au bon moment pour le sportif de haut niveau. Donc toi, quand tu entraînes en fait l'équipe, tu entraînes chaque individu composant l'équipe, c'est ça? Ok, donc j'imagine qu'il y a autant de programmes que de personnes dans l'équipe, parce qu'ils ont tous, des points forts et des points faibles à travailler différemment, quoi. C'est ça?
C'est tout à fait ça.
Okay. Et puis, c'est ça qui doit être passionnant, d'ailleurs.
Chef d'orchestre, c'est vraiment le mot qui correspond. Les métiers, ils ont évolué. Il y a 30 ans, je pense que l'entraîneur, il faisait un peu tout.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, en fait, il est en systémie. Il gravite autour... l'environnement de la tête, et son rôle, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour tel athlète. Et en fait, c'est là qu'il faut trouver l'équilibre parce que ce n'est pas évident. Il y a des... Quand on est dans une structure, on a des forces, des points d'appui. Et il y a aussi une organisation collective. Et donc, il faut trouver l'équilibre pour essayer de ne pas mettre non plus l'athlète trop en marge. Mais à la fois, si on le met trop dans le collectif, on respecte plus sa singularité.
Oui.
Et là, du coup, ça peut vraiment se retourner contre lui-même.
D'accord, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le juste équilibre entre tout ça, quoi. Et alors, tu disais aussi une chose, c'est que tu dois aller par étapes, mais j'imagine qu'il y a aussi, au-delà d'un programme, en fait, il y a des étapes par rapport à des échéances. Et j'imagine que le programme doit respecter un certain nombre de phases. Si on prend l'exemple, par exemple, de la préparation des JO 2024, j'imagine que là, cette année, vous n'allez pas du tout faire la même chose que quand on sera à 3 mois de partir là-bas. Donc, comment ça se construit? Est-ce qu'il y a des façons de travailler qui sont très différentes dans chacune de ces phases? Est-ce que tu peux nous décrire un peu?
Alors, globalement, quand on est jeune, les jeunes gymnastes, on va dire jusqu'à 12-14 ans, l'objectif, c'est vraiment de développer tout leur potentiel, la vitesse, toutes les qualités musculaires, hein, la souplesse, la force, les placements, et puis au niveau technique, qu'ils aient la base la plus juste. Hein,
c'est pour ne hyper... pas prendre des mauvais réflexes,
voilà,
quoi, c'est ça.
C'est tout à fait ça, hyper minutieux. On est en train de calibrer une sorte d'horlogerie en fait, suisse. C'est hyper fin.
Et... Un peu comme un musicien. Il y a vraiment beaucoup de parallèles, hein, parce qu'un pianiste... Il ne prend pas les bons cours, il positionne mal ses mains et il pourra jouer. Mais il y a un moment donné où il sera limité dans sa pratique
c'est
parce qu'il va se faire mal aux mains. Quoi.
C'est exactement ça. Je joue un peu de guitare, j'y ai joué de manière autodidacte et je sais que je suis un peu limité sur 2-3 traits. Et heureusement que je ne chante pas.
Ah bon, bah tiens, ça me donne une idée. Tu chanteras à la fin.
Bah, on verra. Et du coup, après, quand ils sont juniors, l'objectif, c'est... Ils continuent leur progression technique, donc ils vont continuer à apprendre des éléments nouveaux parce qu'il va falloir qu'ils aient le plus gros bagage en termes de notre difficulté. Et là, aujourd'hui, en France, on est un petit peu en retard sur ce plan-là par rapport aux meilleures nations comme le Japon, comme les Russes. Et une fois qu'ils ont augmenté leur note de départ, pour donner un chiffre, en junior, il faut être à peu près à 30 points de note de départ. Et chez les seniors, c'est 35-36 points de note de départ. Hein. C'est énorme. Donc ça nous donne déjà un objectif à atteindre.
D'accord.
Par rapport à leur formation. Et par rapport aux sorties internationales, c'est pas mal de commencer assez jeune, on va dire vers 13-14 ans, pour commencer à comprendre comment... parce que souvent, on se fait tout un monde. Je suis en équipe de France, ça met un peu la pression. Donc il faut déjà démystifier, à dire, bon, en fait... J'ai fait une compète, c'est des agrès aussi, c'est comme dans le gymnase. Enfin,
savoir gérer ce stress-là.
Pour essayer de proposer en fait la meilleure prestation dont je suis capable. Voilà, c'est l'athlète, il doit se dire ça. Donc pour cela, c'est important qu'ils fassent des compétitions assez jeunes sur le plan international. Ça leur construit l'expérience et au fur et à mesure, en fait, ils vont aller vers des échéances où il y aura un peu plus d'enjeux. Donc, on va dire la première étape qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même assez importante pour un junior, c'est-à-dire avant 18 ans, c'est le championnat d'Europe junior. Donc là, ça leur permet déjà de se confronter le continent européen. On a les Russes, les Ukrainiens dans notre discipline. Ils sont très, très prometteurs.
Costaud,
voilà,
ouais.
Ils sont costauds. Bon, après, il y a d'autres disciplines, hein. Enfin, d'autres nations. Aujourd'hui, il y a les Italiens qui sont quand même bien, les Anglais aussi. Donc, on sent que la concurrence internationale, elle s'est vraiment équilibrée. Hein. Maintenant, il y en a beaucoup qui peuvent prétendre à la gagne. Et donc, ça, c'est en junior, c'est l'étape qui est assez importante. Mais après, celle qui est vraiment cruciale, en fait, ça va être cette traversée du désert entre junior et senior. Parce que quand on arrive en senior, déjà, il ne présente plus 8 éléments, mais 10 éléments. Hein. Donc déjà, si la formation de base n'a pas été correctement réalisée, bah, les 2 éléments qui vont être ajoutés, ils ne seront peut-être pas assez...
bien assimilés ou...
Ouais, ou en termes de difficulté, peut-être trop faibles. Hein. Et, si on met 2 petits éléments à la place de 2 gros, bah, déjà, on se prend un point d'écart avec les meilleures nations, donc sur un agrès hein, seulement. Donc... Et puis ensuite, bah, c'est multiplier le nombre de performances, de compètes. Il faut répéter beaucoup en compétition. Moi, j'ai l'image de Yann Kuchera, qui a fait 4 fois les Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'il a commencé assez jeune à faire pas mal de compétitions, de tournois, Coupe du Monde. Et effectivement, ça doit donner envie d'aller chercher la gagne. Quoi.
La suivante. Après, j'imagine que gagner des médailles quand tu es jeune, il y a aussi une autre réaction possible qui est de se dire tu te mets tellement la pression de ne pas réussir une nouvelle fois. Enfin, tu sais, c'est la situation de l'imposteur, en fait. Dire, finalement, ça a été un coup de bol. Et la prochaine fois, un peu comme un artiste qui sort un album, il se dit jamais je réussirai à faire aussi bien sur le deuxième album. Et donc, une espèce de paralysie de la prochaine compète. Et j'imagine que les multiplier, les compétitions, ça te permet de démystifier un peu, te dire y en a une où tu peux te planter et puis une autre où tu peux réussir et puis
On en rejoint un peu la philosophie dont on parlait en préambule, c'est que soit je gagne, soit j'apprends au bout du compte. Ouais. Chaque expérience est différente et c'est vrai que quand on gagne au bout du compte on est content, mais on se projette sur la suite.
C'est ça.
Mais par contre faire l'analyse de ce qui s'est passé, elle est moins évidente que quand on a perdu. Et là, on est forcé de faire l'analyse de qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi pas, modifier. Donc, ça, c'est un travail à faire qui est hyper important dans le parcours.
Et là, par rapport au JO 2024, donc, ils viennent à peine de revenir de Tokyo. C'est très court, en fait, cette période-là de 3 ans. Comment ça va se décomposer, en fait, cette préparation? Est-ce qu'il y a une phase de récupération, une phase d'analyse, et puis après, on va repartir doucement, et puis après, il y a une accélération de l'entraînement? Comment ça se passe?
Alors, déjà, nous, on a vécu des Jeux Olympiques où les résultats n'était pas ce escompté, en tout cas. Il y a eu une profonde remise en question.
D'accord.
Et aujourd'hui, il y a un système qui est en train de se mettre en place, vraiment avec des choix pertinents, avec des nouveaux entraîneurs, des expertises d'autres pays qui viennent renforcer en fait le staff national. Donc là, c'est en cours de construction.
C'est génial.
Voilà, ça va permettre de rajouter des pièces au puzzle pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Après, faut travailler.
C'est un grand coup de pied dans la fourmilière et ça va être intéressant.
Au niveau des étapes, pour donner des repères, déjà, c'est être présent sur les podiums européens, première étape. Après, c'est les podiums mondiaux. Et puis après, c'est de préparer les Jeux Olympiques.
Hein. Qui vont être quand même une grosse échéance parce que c'est ici et qu'il va y avoir forcément des enjeux encore plus forts.
Il y aura des enjeux qui seront très forts. Après, je pense qu'on ne peut pas remplacer le temps. Les processus, des fois, on peut les accélérer, mais il y a toujours un prix à payer. Je pense que déjà, l'objectif, c'est de qualifier une belle équipe et de redonner un peu cette belle couleur à l'équipe de France pour préparer la suite. Après, on verra s'il y a des possibilités de médailles, il faudra les prendre. Toutes les opportunités sont bonnes. Mais c'est le système, en tout cas, de formation des athlètes et l'engouement est hyper important en termes de dynamique. Ça, c'est vraiment la première chose.
Alors, si on s'éloigne de la gamme et qu'on pense au métier global d'entraîneur, est-ce qu'on peut exercer le même métier, en fait, aussi bien sur un sport collectif qu'un sport individuel, que pour un junior, que pour un senior, Et en gros, pour poser la question autrement, est-ce qu'à l'inverse, les entraîneurs se spécialisent dans un type d'exercice, un type de sport, un type d'âge?
Alors, c'est une belle question, ça. Je pense que dans les métiers, il y a des choses qui sont transversales. Pour avoir fait le séminaire de rentrée avec les autres entraîneurs d'autres disciplines, dont pas mal revenaient de Tokyo, il y a des problématiques qui sont vraiment qu'on peut transférer à n'importe quelle discipline. Après, chaque métier part aussi de sa propre culture. Donc, la culture en lutte ou en volley ou en gym, elle n'est pas forcément la même. Même si on peut retrouver des choses, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas la même logique interne. Donc, il y a quand même des différences. Après, au sein même d'un métier, dans une discipline, il y a différentes facettes du métier. C'est-à-dire que quand on entraîne des jeunes, on ne peut pas exercer le même métier que quand on entraîne des grands. Chez nous, les jeunes, ça commence à 6 ans, 7 ans, 8 ans.
C'est très jeune.
La pédagogie, elle s'adapte. Alors que quand on est avec des seniors qui ont plus de 20 ans, 25 ans, ça fait place un peu plus au management. C'est quand même un aspect managérial, prendre l'humain dans son ensemble. Donc, c'est différents métiers. Moi, j'ai eu la chance de m'en apercevoir avec difficulté aussi, parce que on n'a pas forcément les outils. Les outils, on les apprend dans la difficulté. Quand j'avais des jeunes qui étaient en sixième, à 11 ans, 12 ans, et qu'ils ont commencé à se transformer. C'est devenu des adolescents. Et là, je ne comprenais plus trop pourquoi ils remettaient en question les consignes, les programmes. Mais au bout du compte, ça permet de se développer autrement. Et moi, qui ai deux filles qui sont encore jeunes, mais un jour, elles vont être adolescentes, je pense que j'aurai quelques outils. Ouais, non, mais...
mais c'est vrai que tu auras peut-être des armes que nous, on n'avait pas.
Ouais, non, mais... Et puis, je pense, heureusement, qu'on a ces situations. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que des fois, il y a le résultat. Et donc, des fois, c'est un peu le piège. On est un peu accroché par cette pression à vouloir bien faire. Et des fois, oui, on oublie que la personne qui est en face de nous, elle évolue. Et des fois, elle va avoir des quotidiens où elle va se sentir mal, elle ne va pas être bien comme nous, comme nous tous. Et c'est là qu'il faut essayer de se recentrer sur cette compréhension. C'est un peu de la bienveillance. Mais ce n'est pas simple. Hein. Vraiment, c'est ce qui est passionnant aussi. Parce que quand on arrive à comprendre, c'est vraiment... ouais, c'est jouissif, quoi. On se dit, waouh, je suis utile, j'aide la personne. Mais par contre, quand on se prend la tête pendant une semaine, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, c'est aussi l'aspect qui est pas évident.
Ok. Est-ce que c'est toi qui repères et choisis les sportifs que tu entraînes ou bien à l'inverse, c'est eux qui te choisissent ou bien c'est quelqu'un d'autre? Enfin, comment se passe en fait cette relation et ce démarrage?
Alors là, il y a dans chaque fédération, il y a une sorte de parcours d'accession, on va dire, qui est mis en place, ce qu'on appelle la détection. Souvent, la détection, elle s'opère dans chaque région. C'est-à-dire, dans chaque région, il y a des dispositifs régionaux d'accession. Et l'idée, c'est qu'il y a une personne qui est missionnée pour détecter. Il organise des stages. Moi, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, pratiquement 15 ans, dans deux régions différentes, région centre et aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'idée, c'est de faire le lien avec tous les clubs qui travaillent dans cette discipline, faire le lien avec ses entraîneurs, comprendre un peu aussi leurs contraintes de travail, parce qu'ils n'ont pas toutes les conditions réunies comme dans un pôle qui a vocation à faire du haut niveau. Faut qu'ils fassent tourner leur boutique sur le plan économique. Donc, ils ont des cours d'animation, un peu de cours d'entraînement, etc. Et à partir de là, on essaye de créer une synergie, en fait. Donc, en leur transmettant quelques orientations par rapport à la formation, comment nous, on souhaiterait que vous formiez les athlètes. Eux, ils forment au mieux. Et ensuite, il y a des stages qui sont organisés, comme des stages contact ou ce qu'on appelait les pré-pôles. En fait, c'est des stages avant de rentrer en pôle. C'est un suivi sur une année, voire deux ans avant de rentrer en pôle, pour que le jeune, il vienne souvent dans l'environnement du pôle. Parce que l'environnement d'un pôle et l'environnement d'un club, ce n'est pas vraiment la même chose. En termes de dynamique de travail, d'ambiance, etc., le mode de fonctionnement qui est pas identique. Et du coup, c'est de faire le lien. Plus ce lien il est réalisé, et meilleure sera l'adaptation de l'athlète. En tout cas, ça a toujours été une conviction qui m'animait. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand ils sont proches de la maison, c'est facile, mais quand ils en sont loin, il y a l'éloignement familial qui rentre en ligne de compte.
Et parfois, des âges quand même qui sont assez jeunes. Quoi,
c'est assez précoce. Hein, ouais. L'activité pour entrer en pôle, c'est à partir de la sixième.
Okay. Alors, pour revenir à la question aussi, c'est que je me demande en fait qui détermine qui va collaborer. En fait, tu vois, ce couple en fait, entraîneur et entraîné, qui le détermine? Est-ce que c'est au choix de l'entraîneur? Est-ce que c'est au choix du sportif? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, une fédération, qui détermine? Et donc, parce que derrière ça, en fait, ma question, c'est est-ce que vous vous choisissez ou est-ce que vous devez faire bon an mal an une collaboration?
Quand ils sont jeunes, de toute façon, il y a dans chaque pôle une organisation qui permet d'avoir une répartition des groupes par rapport aux différents âges, en fait, les différents publics. Il y en a, ils sont plus dans les avenirs, c'est les catégories, hein, les espoirs, après c'est les juniors U16, juniors U18, hein, et après seniors. Donc, avec le temps, il y a des entraîneurs qui se sentent plus à l'aise sur certaines catégories.
D'accord, ok.
Après, aussi, avec le temps, il y a des entraîneurs qui aiment bien revenir. Quand ils ont fait toute une génération, ils aiment bien repartir avec des jeunes
pour
recommencer. Ouais, d'accord. Les suivre. Après, ça dépend vraiment des stratégies, des structures. Voilà. pour en revenir à mon mentor Anatoli, lui, il part du principe que quand ça se passe bien avec un athlète, c'est bien de l'accompagner le plus longtemps possible. Oui. Parce qu'en fait, on accompagne l'athlète, mais l'athlète, il nous nourrit également. C'est lui aussi qui nous forme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait face à des problématiques, on n'a pas les solutions tout de suite. Donc, il faut se creuser les méninges, il faut demander des conseils un peu aux autres. Mais par contre, quand on arrive à trouver la solution, bah, si l'athlète il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu franchir ce cap. Quoi. Donc, quelque part, maître-élève, je trouve que c'est presque une fusion. Quoi. C'est, on est élève aussi, parfois. On n'est pas tout le temps au-dessus.
Et en général, justement, cette collaboration, en fait, elle dure combien de temps ? Par exemple, toi, en moyenne, tu suis des athlètes. Combien de... Est-ce qu'on peut parler en années ? Et donc, est-ce que ça permet vraiment une collaboration sur du long terme ?
Moi, la plus longue collaboration que j'ai faite pour le moment, ça durait 7 ans.
Oui, donc c'est énorme.
Voilà, donc
c'est une vie, ça, quand même.
Hein. Dans la première.
Dans la carrière d'un sportif, c'est très long, quand même, 7 ans.
Et puis, je reviens à Anatoli et Yann Kuchera. Il l'a accompagné pendant 4 Olympiades. Hein.
Ouais, c'est énorme.
Donc là, c'est entre 16 et 20 ans, puisqu'il l'a formé aussi quand il était un peu plus... donc quand il était junior.
Et combien de sportifs tu peux, pareil, entraîner en parallèle ? Est-ce que ça demande presque une exclusivité ou est-ce que finalement on peut travailler en parallèle et... Alors, est-ce qu'il y a une limite dans ça ou
ça, on va dire, ça dépend un peu de des catégories. Je pense qu'avec des jeunes, on peut monter à des groupes de 6-7. Et là, moi, je salue vraiment certains collègues qui travaillent dans des clubs formateurs. Ils ont des contraintes. Là, je parle vraiment de contraintes où ils sont face à un groupe de 15, 20 même des fois. Avec différents publics. Il y en a, ils sont faits pour faire de la performance, d'autres un peu moins, d'autres, ce sont vraiment des talents, donc il faut en prendre soin, mais à la rigueur, il ne faut pas mettre les autres de côté. Et eux, ils ont vraiment cette complexité à gérer et être le plus productif possible. Nous, on a quand même ce luxe, entre guillemets, où on a un peu moins d'effectifs à gérer. Par contre, du coup, ça nous permet de pousser plus loin l'individualisation. Quand on est avec des juniors, je pense que monter à 5, c'est pas mal. Avec des espoirs, 5, 6, c'est bien. Quand ils sont jeunes, ils ont pas mal de petits soucis de croissance, puisqu'ils grandissent. Et du coup, il y a des périodes où ils feront un petit peu moins. Oui. Donc, quand ils font moins, ils feront autre chose. Ils feront des renforcements, ça peut être un travail d'imagerie, de préparation mentale. Et du coup, pendant ce temps-là, nous, on peut s'occuper un peu plus des autres. Donc, d'avoir un groupe un peu plus étoffé quand ils sont jeunes, c'est bien.
Oui, je comprends.
Par contre, quand ils sont dans la performance en tant que senior, je pense qu'en avoir 3, c'est bien.
C'est ton cas, par exemple ?
Là, aujourd'hui,
oui. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, tu vois, je m'imaginais plus, je pensais, mais non, je ne connais rien, donc ok.
Mais après... on peut aussi, ça dépend en fait, les structures, on peut tourner aussi, on peut avoir nos gym attitrés, entre guillemets, mais aussi on peut être plusieurs intervenants sur un même athlète. Ça peut arriver, et ça en revient au ressenti des entraîneurs. Il y en a, ils ont plus de facilité à enseigner un agrès. Il y a des agrès où ça passe très bien. Moi, il y a des agrès, j'aime bien demander des conseils parce que même si je l'ai bien vécu en tant qu'athlète, il y a quelque chose que je n'arrive pas forcément à transmettre de la même façon.
Donc sur certaines sous-disciplines, vous pouvez travailler en duo, quoi.
Voilà,
duo d'entraîneur.
Ouais.
D'accord, ok, intéressant. Est-ce que pour que ceux qui nous écoutent essayent de se projeter, se dire, tiens, je voudrais faire ce métier, à quoi ressemblerait ma journée ou ma semaine ? Est-ce que ça, c'est possible d'en décrire un peu un format, quoi, type ?
Alors, je vais parler de ce que je vis aujourd'hui, parce que le métier d'entraîneur, quand on est dans un club ou quand on est dans un pôle, c'est pas la même chose, quand même.
Oui.
Donc, je vais parler de mon cas. La journée, c'est entraînement donc le matin. Souvent, on fait entraînement de 10h à 12h30. Et l'après-midi, c'est de 15h30 à 18h30.
D'accord.
Bon, après, on gratte un petit peu. Si le gym n'est pas fatigué, qu'on est à fond dans une séance, des fois, on ne voit même pas tourner l'horloge. Hein. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a des amplitudes au niveau du self où les jeunes peuvent manger très, très tard. Alors, c'est pas une habitude à prendre, mais en tout cas, ça ne nous met pas la pression à finir une séance dans le stress. On peut finir dans la sérénité.
Les athlètes que tu suis, ils mangent et ils dorment ici, en fait. Hein.
Voilà.
Ils vivent ici.
Ils sont internes. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a une unité de lieu. Il y a tout ici. C'est-à-dire, il y a la structure d'hébergement, il y a la restauration, il y a les structures scolaires. Il y a aussi le pool médical qui est hyper bien desservie. Hein. Mmh. Il y a tous les cœurs de métier dedans, avec toutes les... En termes de récupération, bah, ils ont balnéo, le spa, sauna, etc. Non, ils sont vraiment à la pointe de la technologie, ouais, par rapport à ça. Et puis, ils font quand même pour les lycéens une matinée au lycée pour avoir un lien social, bien ce sûr, qui est quand même assez important.
Ok, donc tu disais, donc ça, j'ai calculé vite fait, mais ça fait quand même 6-7 heures par jour. J'imagine qu'ils ne font pas la même chose et qu'ils ne sont pas... Donc, comment se décompose ou se saucissonne un peu ces journées entre les différents types d'activités que tu peux être amené à leur faire faire ?
Souvent, le matin, en fait, les entraînements sont plus dédiés à la mise en place de préparation physique, de renforcement. On va faire de la proprioception, après on va faire de la base. On va faire un peu d'agré, mais c'est plus de l'acrobatie vraiment. Et l'après-midi, souvent, c'est plus du concret qui se rapproche de ce qu'ils ont besoin de préparer pour les compétitions. Donc, ça peut être des enchaînements, soit de travailler des nouveaux éléments, soit faire des demi-parties de mouvements, voire des mouvements complets, comme ils présentent lors d'une compétition officielle.
Et est-ce qu'il y a des parties théorique, genre, donc tu disais un peu tout à l'heure, mais c'est observation de leur mouvement par une caméra, mais aussi étude des concurrents, étude, tu vois, analyse de comment ils font, comment font les autres.
Ouais, alors, ça, c'est quelque chose qui a évolué. On a un peu un entraîneur adjoint, c'est eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'avec les smartphones, ils ont une facilité intuitive à aller choper l'information. Des fois, c'est eux, hein, c'est les athlètes qui nous montrent des difficultés qui ont été faites par les Japonais, les Russes.
D'accord.
C'est-à-dire que la veille stratégique est beaucoup plus rapide, des fois,
merci, Internet,
de leur part, parce qu'ils sont aux aguets. Et puis nous, des fois, quand on voit des choses aussi, on échange beaucoup là-dessus. Hein.
Alors, vous venez de traverser la période un peu du Covid. Enfin, vous venez d'ailleurs, nous aussi. Hein, mais quel impact ça a eu, vous, dans votre pratique de l'équipe et de l'entraînement et de ton métier, quoi, en général ? T'as ressenti un impact ?
Forcément, tous. Hein. Bah déjà, il y a eu cette prise de recul qui était forcée. En ce qui me concerne, là où c'était dur, c'est que moi, j'aime bien être proche de l'athlète quand il passe, qu'il est en difficulté, d'essayer de comprendre, d'échanger avec lui, de comprendre vraiment qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il passe le cap, qu'il réussisse et qu'il continue à avancer. Fallait que je réinvente d'autres choses, à faire des visios. Je me mettais même à faire des tutos. Comment construire des porte-mains pour essayer d'entretenir au mieux la condition physique à la maison. Mais par contre, ça permet aussi de développer l'autonomie. Parce que l'aspect positif d'être proche de l'athlète, bah, c'est bien, ça l'accompagne. Par contre, l'aspect un petit peu néfaste que je reconnais, c'est que j'étais tellement dessus que, ouais, bah, à un moment donné, l'autonomie, c'est pas forcément comme ça que lui pouvait la développer. Et il faut que je l'autorise à faire n'importe quoi, à chuter. J'étais inquiet, en fait. Ça générait un peu de stress, d'angoisse, à dire mince, où ils en sont, ouais, j'espère que ça va, est-ce qu'ils aiment tout le temps la gym, enfin... La gym, quand on est dans un gymnase, c'est beau, il y a des couleurs de partout, trampoline, mais quand on est à la maison, faire de la gym dans la cuisine,
ouais, c'est pas facile.
C'est, ouais, un peu moins glamour. Hein.
Et le retour ? Tu as senti que dans le retour à la normale, les relations avaient évolué ou est-ce qu'il y a eu une difficulté à revenir à une pratique ?
Non, ils étaient contents. Ça s'est fait progressivement, d'ailleurs. On a été beaucoup accompagnés pour cette reprise, surtout par le staff médical. Parce qu'en fait, il y avait un impact, oui, sur tout ce qui est tissulaire, en fait, musculaire, tendineux. Il ne fallait pas brûler les étapes. Hein. Jamais on avait eu c'était des athlètes de haut niveau qui étaient devenus un peu sédentaires, quoi.
Oisif, quoi.
Tout d'un coup. Et ouais, ça, bah, y en a quelques-uns qui ont laissé des plumes. Hein. Après, pour ça, nous, on s'est mis plus en mode écoute et à demander des conseils par rapport aux avis médicaux, à avancer étape par étape, à faire des check-ups régulièrement. Et puis, tout le monde était content, en fait. Dès qu'on commençait à regagner la salle, c'était cette chance, on a...
Enfin, quoi.
Ouais, et puis ça s'est fait en plusieurs étapes. Nous, on était assez privilégiés au tout début parce que c'était que les athlètes listés qui pouvaient prétendre à reprendre le chemin de la salle. Donc, mais ouais, c'était aussi des contraintes quand même. Hein. surtout au tout début, parce qu'on ne savait pas trop comment gérer.
Et combien de temps en plus, tu sais, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc tu ne gères pas du tout un arrêt d'un mois comme tu gères un arrêt de 6 mois, quoi, j'imagine.
Voilà, il y a ça, et puis la grosse frustration, c'est quand à nouveau, il fallait préparer des compétitions, qu'on était presque à 3 semaines, et qu'à 3 semaines, on nous dit non, elle est annulée ou elle est reportée, donc la motivation, elle retombait. Donc ça s'est fait une fois, deux fois, mais quand c'était trop répétitif, là, c'était dur.
Ouais,
c'était dur parce qu'au bout du compte, fallait réinventer à dire bon, bah, allez, on va peut-être repartir plus sur travail de nouveaux éléments, orienter plus la pratique sur du plaisir, à penser qu'à soi, parce que les compètes, on sait même pas si ça va reprendre un jour. On en était arrivé là, quand
mais
même.
C'est ça, c'est que vous êtes votre travail est quand même vachement lié à des échéances. Mm-hmm. Quand il n'y a plus ces échéances là, comment on réinvente son métier par rapport à
et
ça?
Et encore que les juniors, ils ont la chance d'apprendre des nouveaux éléments. Là, moi, je tire mon chapeau, admiratif surtout des seniors qui devaient préparer les Jeux Olympiques dans des conditions comme ça. Honnêtement, ils ont été très, très courageux.
Alors, tu disais tout à l'heure que la discipline et que la pratique évoluent à une vitesse énorme, que d'ailleurs, tu apprenais aussi au contact, finalement, des personnes que tu accompagnes, enfin, des athlètes. Mais concrètement, toi, comment, dans toute ta carrière, en fait, tu arrives à nourrir ou faire évoluer ta pratique au fil des années, justement, pour rester à la pointe, quoi. Toujours permettre, finalement, à ton athlète de bénéficier du meilleur accompagnement possible, quoi. Tu disais, en plus, tu avais des nations qui commençaient à monter. Donc, tu vois, comment on fait pour...
Déjà, c'est s'entourer des meilleurs. Je pense que, quand j'utilise le mot mentor, c'est déjà analyser un peu les différents systèmes de formation qui nous entourent. Et même... prendre, en fait, le meilleur dans chaque individu. Il y en a, ils sont excellents dans la technique. Il y en a, ils sont excellents dans le relationnel. Et en fait, il faut se nourrir de tout ça pour être au service de l'athlète. Pour l'international, je pense qu'il n'y a rien qui remplace les stages dans les pays. C'est-à-dire faire un stage au Japon, un stage en Russie, parmi les meilleurs, et s'entraîner avec eux pendant, je dirais, 2 semaines au moins. Ça, c'est ce qui permet vraiment de nous enseigner des choses. Parce que quand on les voit en compétition, on voit juste, on va dire, la vitrine ce qu'ils font. Mais par contre, c'est comment ils l'ont préparé.
Mais attends, mais pourquoi ils vous ouvrent les portes, en fait? Ils ont tout intérêt à garder ça bien secret.
Alors, de toute façon, je ne veux pas dire que c'est une petite guerre, hein, mais je pense qu'ils larguent pas tout, tous les enseignements, les méthodes, tout ça. Après, nous, on a la chance quand même. Là, aujourd'hui, on a une deuxième personne, qui s'appelle Vitaly Marinic, qui vient d'arriver, qui va renforcer le staff au niveau de l'encadrement des équipes de France. C'est l'entraîneur national. Lui, il est d'origine ukrainienne. Il a travaillé aux États-Unis dans un centre olympique, plus Anatoly, plus d'autres entraîneurs. Il y a eu Marc Touchet, Laurent Barbieri qui avait fait les Jeux Olympiques en 2008, qui avait ramené une médaille de Pékin. On a plein de ressources. Après, on a d'autres ressources aussi à l'international.
Okay.
Donc après, voilà, c'est essayer de...
C'est faire circuler, en fait, l'expertise.
C'est observer, c'est écouter, et c'est aussi solliciter, je pense. Ceux qui ont confiance, qu'on a croisé plusieurs fois, il faut leur demander de temps en temps... ton athlète, il fait ça, mais qu'est-ce que tu as fait?
Il y a justement un partage d'expérience entre entraîneurs.
Est-ce que vous arrivez
à dépasser un peu la compète pour échanger?
Ça, après, je pense que c'est quand on a fait place au relationnel.
Ouais.
Et forcément, on a tous des amis internationaux et on est tous dans le dur. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas non plus les différentes générations. Il y a des générations creuses, d'autres talenteuses. Et puis, nos systèmes aussi, l'environnement dans lequel on est, il a aussi un impact sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut moins faire. Mais par contre, la passion, une fois qu'elle nous connecte, c'est là qu'on peut échanger. Et c'est vrai qu'un stage au Japon, moi, ça me plairait bien.
C'est une invitation.
c'est parce que je suis assez admiratif de leur travail et aussi de leur philosophie. C'est aussi un état d'esprit qu'ils ont.
Aujourd'hui, quelles sont les nations? Tu parles du Japon. Est-ce qu'il y a des nations dont on sait que, je parle dans ta discipline, mais sur le métier d'entraîneur, sont en avance? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment de loin? Et quelle place on se situe, nous, tu vois, en France?
Alors ça, elle est complexe, la question par rapport à la place, en tout cas, parce que là, faudrait croiser plein d'éléments. Mais déjà, les deux disciplines qui ont vraiment été phares aux Jeux Olympiques, c'est la Russie et le Japon. Hein. C'est eux qui ont vraiment brillé. Les Chinois aussi, ils sont bien. Mais je pense qu'il faut ramener ça à notre société. Parce que je pense qu'on ne pourrait pas entraîner comme on entraîne en Chine, en France. Il y a des nations où ils ont, je ne sais pas si je peux appeler ça une clairvoyance, mais les meilleurs entraîneurs, ils sont mis avec les tout-petits, en fait. Mm-hmm. Parce qu'ils ne veulent surtout pas manquer le travail de base.
D'accord.
Okay. Il y a d'autres nations, les meilleurs entraîneurs, ils sont tout en haut.
Quand tu dis tout en haut, c'est qu'ils sont avec les seniors.
Avec les seniors,
ceux qui ont déjà fait leur preuve et là, on tape.
Donc, en fait, chaque système est différent. Après, le seul constat qu'on peut dresser, c'est Russie, Japon, aujourd'hui.
Ceux qui ont ramené les plus grandes médailles.
Ceux qui brillent sur le plan planétaire, en tout cas.
OK. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller effectivement un peu regarder ce qu'ils font.
Je sais qu'en Russie, ils ont des spécialités, par exemple. Ils ont tous un cursus un peu transversal de leur métier d'entraîneur. Mais par contre, il va y avoir un spécialiste acrobatique, l'expert de l'acrobatie. Il y a une période, c'était Valentin Potapenko. Là, maintenant, il y en a un autre. Il y a un spécialiste aux arçons. Ils ont tous leur agrès où ils ont quelque chose en plus à apporter.
Et alors, est-ce que tu t'inspires aussi, on a commencé un petit peu à en parler, mais d'autres disciplines, et alors ça peut être des disciplines sportives, mais est-ce que vous allez regarder aussi ailleurs? Je posais la même question à Cyril tout à l'heure, mais est-ce que, je ne sais pas, un programme pour entraîner des astronautes, pour entraîner un pilote de Formule 1, est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir l'envie d'un peu gratouiller comment eux, ils gèrent, même si ce n'est pas du sport, il y a quand même des composants qui sont un peu similaires, gestion du stress, de l'image, la pression. Alors, l'exactitude.
Astronaute, on n'est pas encore parti aussi loin. Pourtant, il y aurait des choses à apprendre. Ouais. Par rapport aux ressources qu'on a, c'est vrai que l'athlétisme, on s'en inspire pas mal, notamment par rapport au saut de cheval, voire même la détente au sol. Ensuite, on peut travailler. Moi, je souhaitais travailler avec la natation par rapport à la respiration, notamment la natation synchronisée qui fait pas mal de répétitions d'enchaînement en étant en apnée, en fait. Hein. Et ça m'intéresse parce qu'il y a des agrès où on ne peut pas forcément avoir une respiration ample, naturelle. Donc, savoir qu'est-ce qu'ils mettent en place pour... c'est ça, en fait. C'est pour répondre à une situation donnée. Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est la question qu'on pose à nos collègues d'autres disciplines. Et après, si on sort vraiment du champ du sport... Sur l'aspect gestion des émotions, moi, j'ai eu la chance de travailler avec une prof de yoga, Karine Fonbonne. D'ailleurs, c'est la sœur de Cyril. on a réussi à rapprocher le yoga de la gym, même si, on va dire, ce n'est pas forcément dans les mœurs, pour différentes façons, soit pour augmenter l'amplitude articulaire, soit pour assouplir, donc là, c'était plus au niveau musculaire, voir les fascias, et également sur l'aspect un peu mental, c'est-à-dire que travailler la persévérance, une posture de yoga qui est hyper désagréable, sur cette posture qui génère des sensations désagréables, on essaye de se détendre, de lâcher prise, et du coup, ça va faire place à d'autres émotions un peu moins désagréable, et du coup on va commencer à sentir le confort dans un mauvais confort et ça c'est important parce que si l'athlète arrive à développer cette compétence quelque part, et quand il va avoir ces sensations désagréables qui vont arriver, il va pas forcément s'arrêter dessus. Il ne va pas se laisser noyer avec ça.
Donc c'est un peu, entre autres, la gestion de la douleur, non? Du seuil de la douleur, des choses comme ça, ça doit aider.
C'est aussi, ça aide. Alors après,
rythme cardiaque, j'imagine. Aussi.
C'est toujours être un peu dans une sorte de bienveillance envers soi-même par rapport à la douleur. Il faut connaître ses propres limites. Mais en tout cas, c'est développer d'autres choses. Et je pense qu'il y a la méditation, le yoga, il y en a, ils font du théâtre. On peut piocher n'importe où. Il y en a même, je suis sûr qu'ils font de la musique. Parce que,
Alors quel est le rapport avec le théâtre? Qu'est-ce que ça apporte dans la discipline? C'est intéressant,
en fait, ça. Le théâtre, ça permet de gérer ses émotions et de parler devant un public. Nous, la gymnastique, en fait, elle est jugée. Quand les gyms, ils rentrent ils sont dans un sas. On va dire, c'est allez, le championnat de France. On est dans un sas. On ne voit pas forcément ce qu'il y a autour. Avant le Covid, bon, il y avait le public, hein, un peu, il y a de l'ambiance, donc on entend que ça ronronne un peu. Il y a la montée de stress, on sait que le match
approche. Oui, c'est comme un rockstar qui
là,
rentre.
Boum, on rentre un peu dans l'arène. Et puis là, voilà, c'est parti, c'est le combat, quoi. Le combat est lancé. Ils ont 30 secondes, voire 50 secondes d'échauffement. Et après, ils se présentent les uns derrière les autres. Ils font leurs prestations d'agré en agré. Il y a le speaker qui va dire, tiens, il y a lui qui est passé en pole position, etc. Donc, le combat, il faut le mener jusqu'au bout. C'est tout l'attrait de l'activité. Mais ça, quand il y a le public, si la personne elle est un peu introvertie et qu'elle n'arrive pas vraiment à se centrer sur ce qu'elle fait, et qu'elle va un peu trop regarder autour d'elle ou s'inquiéter plus du résultat ou des choses qui sont incertaines, bah là, c'est
un moment
qui peut être difficile à vivre pour elle. Donc, c'est pour ça que je pense que l'idée, c'est à chaque gym, a une problématique. C'est-à-dire, après, il ne faut pas tout ce qu'ils fassent de la prépa mentale. Ils n'ont pas tous besoin de théâtre. Ils n'ont pas tous besoin de yoga.
On en revient vraiment à l'individualité du programme.
C'est
vraiment
ça.
S'adapter pour ne pas plaquer une méthode globale à tous. Quoi. C'est super intéressant.
On va réutiliser des méthodes, mais après, il faut la rendre intelligente, la méthode, pour qu'elle soit la plus adaptée à l'individu qui est en face de nous.
Bon, alors avant qu'on reparle de ta profession, enfin des questions un peu plus générales, je voudrais te poser quelques petites questions concrètes, parce que si des gens sont aussi intéressés pour exercer ce métier, je trouve que c'est important qu'ils aient quelques réponses sur notamment ton statut. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est fonctionnaire? Est-ce que, tu vois, quand on est entraîneur, à quel statut on peut imaginer prétendre? Et puis, quel est ton boss, en fait? Qui te dit quoi faire,
ouais,
en fait?
C'est une bonne question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé à un concours, c'est le professorat de sport. C'est un concours de la fonction publique de catégorie A. Et à ce titre, je suis un agent d'État, donc fonctionnaire. Aujourd'hui, on est rattaché donc à un ministère en charge des sports et qui est rattaché à l'éducation nationale. On va dire qu'on a une sorte de double hiérarchie. On a une hiérarchie qui est à la fois administrative.
D'accord.
Voilà, on dépend soit des DRAGES, hein, ou bien il y a la hiérarchie qui est technique, notre directeur technique national. Donc la hiérarchie technique, en fait, c'est aussi un cadre d'État. Mais qui a cette prérogative un peu de ressources humaines à nous orienter et puis à nous donner des orientations techniques, hein, des objectifs. On a une lettre de mission, en fait.
D'accord.
Et on a des indicateurs, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, par rapport à l'entraînement, on va dire les moyens, c'est le nombre de stages, le nombre d'heures passées dans la salle, etc. Mais après, les indicateurs, c'est combien d'athlètes ont été médaillés, par exemple, au championnat d'Europe. Ça, c'est un indicateur.
Vous avez ce genre d'objectif, quoi,
voilà,
très concret.
C'est,
quoi.
C'est ce qui permet d'évaluer en fait, l'exercice de la fonction.
Bien sûr. Ouais.
Et puis, la hiérarchie administrative, c'est elle qui nous accompagne dans notre carrière, qui nous note par rapport à l'organisation des congés, hein, aussi.
Oui, ça, c'est un mode de fonctionnement plus classique.
Voilà.
Mais,
Donc, okay. on va dire en priorité, on a cette hiérarchie administrative.
Mm-mm.
Et après, sur le terrain, on a besoin de cette hiérarchie technique pour nous guider, en fait.
Oui. Pour vous donner des perspectives et un objectif. Comment on acquiert sa légitimité en tant qu'entraîneur? Ça n'a pas été... Enfin, je me dis, comment tu démarres ta carrière en tant qu'entraîneur et qui va te faire confiance avant que tu aies des résultats?
Ça, c'est une sacrée question. la légitimité, j'aurais tendance à dire qu'elle se gagne avec le temps. On fait tous des erreurs, hein. Après, les erreurs, ça permet d'en tirer des enseignements, de nous construire. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qu'il faut,
c'est valable dans la vie de tous les jours aussi.
Je pense qu'il faut être authentique, en fait. Il faut se révéler comme on est. Et, ça en rejoint un peu à la question par rapport au couple entraîneur-entraîné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des couples qui se font, d'autres qui se défont. Et c'est parce que chacun évolue, en fait. C'est tellement fluctuant. Chacun évolue, chacun a sa trajectoire. Tant que les trajectoires, elles sont en osmose, ça va. Mais si à un moment donné, il y en a qui se découvrent, ça peut créer des décalages. Après, par rapport à la question d'avoir une sorte de reconnaissance vis-à-vis des athlètes et des entraîneurs, je pense que c'est d'être au service d'eux, en fait. C'est un peu cette abnégation, cet altruisme. Et je pense que plus ils se développent, et plus après, il y a une sorte de reconnaissance qui se fait dans le temps, en fait, naturellement.
Et au travers des succès aussi, des personnes que tu accompagnes, quoi. Comment
mais,
tu...
Ouais. Alors, excuse-moi de te couper, mais non. Par rapport au succès, je pense qu'il faut aussi avoir un autre regard sur les succès. Parce que quand il y a un athlète qui réussit, ce n'est pas 100% de notre travail. Ce n'est pas 100% de notre réussite. Et quand il échoue, ce n'est pas 100% de notre échec.
Dans les deux sens. Quoi.
Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'en fait, la performance, la prestation d'un athlète, c'est la somme de tout ce qu'il a vécu avant. Et ça, ça commence du moment où il est né, en fait. L'éducation, tout ce que la famille a apporté, tout ce qu'il a vécu avec ses copains à l'école, avec ses maîtres, maîtresses, les enseignants, le collège, lycée, etc. C'est tout l'environnement. Nous, de toute façon, sur le présent, on est la somme de tout ce qu'on a vécu avant.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi avoir cette analyse à pas porter le chapeau.
Dans le bon comme dans le mauvais, quoi.
Bah, tout à fait, voilà. Faut relativiser.
Ok. Comment tu te fais connaître est-ce que tu dois... toi aussi, gérer ta propre com, comme certains athlètes doivent le faire
Bah là, pour le moment, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas, j'ai pas encore fait de résultats probants, hein, pas de médaille olympique, voilà.
C'est après, dans ce sens-là que tu dis ça.
Non, mais après, si, ça compte, hein, je pense. Il y a une sorte de CV qui se fait au fur et à mesure. Non, mais ça, c'est aussi une excellente question parce que je pense qu'on a besoin d'un accompagnement en termes de communication. J'ai eu la chance d'être à Tignes, c'était l'atelier des coachs, en fait. Et en fait, il y avait tous les entraîneurs et les étoiles du sport ont proposé un atelier où on nous donnait des conseils. Alors, c'était plus orienté sur le cyberharcèlement. Voilà, alors surtout, public cible, c'était les athlètes. Mais nous, on a pris ça aussi pour argent comptant parce qu'au bout du compte, ça a évolué tellement vite qu'on est vite largué. Hein.
Ouais.
Et je pense qu'effectivement, il y a sans doute une communication à apprivoiser. Là, moi, je suis encore à l'âge de pierre, hein. Je vais être honnête, mais bon, peut-être qu'il faudrait se questionner là-dessus.
Mais je me demande si ça fait partie de votre métier, parce que c'est une dimension qui n'est pas négligeable, et donc c'est intéressant de l'intégrer, parce que faire son personal branding, quoi, ça, c'est une dimension qui devient de plus en plus importante dans tous les métiers, et qu'on oublie un peu, et parfois, ce n'est pas forcément la partie la plus évidente, tu vois, à intégrer, quoi.
Je vais rajouter ça dans la to-do list.
Moi, j'aime bien mettre la pression comme ça.
Ah non, ce n'est pas une pression, moi, ça me rend service. Ça me donne des idées au fur et à mesure.
Alors, c'est un point qu'on avait abordé quand on s'était eu au téléphone, qui me paraît super importante, c'est comment, tu vois, tu arrives à bien maîtriser l'équilibre entre le plaisir de la pratique sportive, hein, qui doit demeurer essentiel, parce que, je veux dire, on n'entraîne pas des robots, on entraîne des hommes. Le bien-être de l'athlète, et en même temps, la performance qui est essentielle. Et je me dis que cette question est d'autant plus importante. Alors peut-être que ce n'est pas vrai, mais je me dis qu'il y a quand même un enjeu qui grossit là, qui est la visée des JO de 2024, où je pense que les enjeux vont être encore plus importants parce qu'on fait à demeure et qu'on a une pression médiatique, mais une pression aussi de représentation de la nation, quoi. C'est le poids, il est hyper lourd. Comment on arrive à gérer cet équilibre ?
Alors oui, c'est un équilibre, on est tout le temps sur le fil du rasoir, de toute façon. C'est sûr qu'à partir du moment où on fait une pratique intensive, on pousse l'athlète dans ses retranchements. Je pense que l'athlète, c'est le thermomètre, en fait. C'est lui, hein, qui va réguler la température. Nous, par contre, il faut être à l'écoute. Il faut beaucoup échanger avec lui, beaucoup communiquer. Faut presque, au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, l'athlète doit devenir presque son coach adjoint, parce que c'est lui qui doit presque valider ses programmes d'entraînement, la charge de travail qui va se mettre, je vais être un peu grossier, mais dans la gueule. Mais l'idée, en fait, c'est de lui demander souvent son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu ressens les choses? Toi, comment tu verrais les choses? Et c'est bien de laisser aller. Alors, quand il n'y a pas trop d'enjeux, je pense que ça, j'apprends aussi avec le temps, bah, faut le laisser se planter. Parce que quand il se plante, il écoutera davantage que si ça passe, et même s'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais après, l'idée, ouais, c'est de le guider, mais c'est lui qui tient la lanterne, hein, sur la route. Hein. C'est lui qui avance avec. Hein. Nous, on est juste là pour donner des repères. Et c'est ça, en fait, l'équilibre qu'il faut essayer de maintenir.
Ok. J'entendais l'interview d'un entraîneur qui disait que ce qui était important, c'était de comprendre en fait le moment où tu dis ça suffit, c'est-à-dire d'aller chercher de la performance au-dessus n'est plus, enfin c'est pas utile. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois, toujours au-delà même du plaisir en fait et du bien-être de l'athlète, c'est de se dire à un moment donné, rien que dans la performance, aller chercher les 20% supplémentaires, c'est pas, je perds du temps, il vaut mieux que je me concentre ailleurs. Ça aussi, ça doit être compliqué, non?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi...
je peux répéter, enfin, je peux dire autrement.
Mais je pense avoir compris. Après, si je ramène ça à la gym, c'est tellement précis que si on laisse un détail de côté...
Toi, tu penses qu'il n'y a pas ce truc où il faut dire ça suffit?
Bah, en fait, quand je vois ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, après, il ne faut pas regarder ça tout de suite, hein, sinon on se dit ouais, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il faut trouver l'équilibre entre être hyper pointilleux et perfectionniste. Mais cette perfection, il faut l'installer dans le temps, en fait. Il faut la temporiser. Parce qu'être perfectionniste trop tôt, ce n'est pas bon. Il faut savoir, pour en revenir au code de pointage, déjà, bah, commence à faire tes mouvements sans chuter, déjà. Après, quand tu arriveras à faire tes mouvements sans chuter, on essaye de supprimer les fautes grossières, 5 dixièmes. Après, ça sera les fautes à 3 dixièmes. Et après, les fautes à 1 dixième. Mais si on est perfectionniste et tout de suite, on dit « Allez, tiens, il faudrait faire ça, pas de fautes, etc. » Non, c'est...
Ouais, et puis j'imagine que c'est le temps qui vous permet d'éviter à tout prix la blessure, quoi, qui doit être vraiment la guillotine au-dessus de la tête de tout le monde, de la tienne comme celui du sportif, non ?
Ouais, bah, y a un petit peu ça. Après, bon, ça, on n'y pense pas trop. Peut-être que ça va augmenter cette sensation avec l'enjeu. On verra bien. Mais en tout cas, le mouvement parfait, il n'existe pas forcément en gym. Donc, en fait, la perfection, on ne la touche pas, on s'en rapproche le plus possible. C'est un peu cette discipline qui en fait sa beauté. Hein, quand l'exécution, elle est réalisée avec de la facilité, de la légèreté, on a l'impression que c'est super simple. On n'imagine pas qu'il y a 10 000 heures de pratique derrière. Et ouais, il faut aller étape par étape.
Ouais, ok. Alors, dans un monde qui est centré sur la performance, d'ailleurs, longtemps, elle a souvent été considérée uniquement comme physique. Hein, on voit bien qu'effectivement, tout ça, ça évolue. Mais il y a aussi eu des dérapages. Je ne parle pas que de la gym, hein, je parle en général dans le sport et des affaires de dopage. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que tout ça, ça a évolué? Et puis surtout, qu'on en discute et que tu nous donnes ton point de vue par rapport à ces dérapages.
Alors, des dérapages, il y en a eu. En gymnastique, ce n'est pas forcément une discipline à dominante... physiologique, hein, on va dire. Hein. Donc, les cas de dopage, j'en connais pas beaucoup, en tout cas en France. Après, au niveau de l'institution, on a quand même la chance d'avoir une agence hyper développée sur la lutte contre le dopage. Et en fait, chaque fédération a des commissions, met en place des actions en fait, de sensibilisation par rapport à ça. Et puis, les athlètes qui doivent, qui font des compétitions internationales, ils ont aussi un protocole à faire pour avoir un certificat alpha, on appelle ça. Donc, ils ont pas mal de questions, de choses à apprendre. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place.
Quoi.
Ouais, c'est prévention, sensibilisation. Après, on n'est jamais à l'abri à 100%, mais notre rôle aussi en tant qu'entraîneur, éducateur, on va dire, c'est de leur expliquer les tenants et les aboutissants pour ne pas tomber dans différentes pratiques qui peuvent se présenter à eux, surtout quand ils deviennent adolescents, aller fumer, essayer le cannabis, etc. Donc, même par rapport à l'alcool, on a aussi un rôle à jouer là-dessus. Hein, et là, il faut vraiment trouver le juste milieu.
On en revient aussi à cette part d'éducateur, finalement, que tu as vachement dans ton métier.
Mais
quoi,
c'est une affaire de dosage. Et parfois, c'est ça qui n'est pas simple, c'est qu'il faut presque mettre, c'est frustrant, la performance technique de côté pour dire non, mais ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas passer. C'est la santé avant tout. Enfin, c'est une intégrité physique et morale hein, de l'athlète. Quand on sent qu'il peut y avoir des dérives potentielles, en tout cas, on a intérêt à être assez ferme, bienveillant, mais ferme en tout cas, pour que le message y passe et être un peu les garants. Parce que de toute façon, il se peut que des fois, l'athlète fasse fausse route. Après, notre rôle, c'est comment on le ramène. Comment on lui explique, on le ramène dans ce chemin. Et puis aujourd'hui, ouais, les institutions elles mettent pas mal de choses en place pour limiter toutes ces dérives.
Bon, bah merci pour ces explications. Je trouvais que c'est... Puis on s'était dit au téléphone que c'était bien d'en parler de tout ça. Alors, selon toi, dans le sport de haut niveau, en fait, quelles sont les bonnes pratiques, si tu peux nous en donner deux ou trois, que nous, dans nos vies perso ou même professionnelles d'ailleurs, ça serait super qu'on les applique.
Dans le sport de haut niveau ?
Ouais. Qu'est-ce qu'un athlète de haut niveau pourrait apprendre de... Là, pourrait m'apprendre à moi dans ma vie perso et ma vie pro.
Alors, c'est sans jugement, hein, mais je pense que déjà la discipline qui émane vraiment de notre discipline, parce qu'à l'origine c'était une discipline un peu militaire, hein, la gymnastique. Ça, la discipline, c'est important. Et c'est pour ça, pour en revenir au Japon, eux, ils ont une discipline dès le lever en fait. Mmh. Dès le lever, tout ce qu'ils font, ils le font à la perfection. Tous les gestes, ils sont contrôlés, ils sont faits en pleine conscience. Ils s'appliquent, en fait, à chaque chose. Ils le font lentement, mais ils le font calmement et proprement. Et ça, c'est vrai que cette discipline, ça peut aider pour éviter de se perdre un peu dans, bah, on va dire l'inverse, à se laisser aller et ne pas être du tout rigoureux.
Pas avoir d'exigence.
Pas d'exigence, on met des choses au lendemain. Après, il y a une autre compétence qui développe quand même les athlètes, c'est la manière de planifier, de programmer les choses. Quand même. Mm-hmm. C'est l'organisation, quelque part. L'organisation du quotidien. Hein, quand ils devront aller faire des courses, à quelle heure, aller chercher les enfants. Enfin bon, et ça, je pense que cette capacité à se projeter dans un avenir à court, moyen terme ou long terme, pour organiser leurs pratiques, monter en puissance, évaluer s'ils sont sur le bon chemin ou pas, et comment réguler. Ça, c'est des choses qu'ils apprennent.
Et puis accepter de faire des choses par étapes pour ne pas griller des feux et puis aller trop vite.
Valider des marches qu'ils ont réussi à atteindre. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Après, il y a forcément le goût de l'effort. Le goût de l'effort, parce que tous les quotidiens, ils ne sont pas simples. Hein. La semaine, souvent, ça fait lundi, ça va, c'est le retour du week-end. Des fois, il y en a certains, ça pique un petit peu, surtout les anciens, parce que c'est un peu rouillé. Après, le mardi, ça va pas trop mal, c'est bien. Le mercredi, ça va. Le jeudi, ça commence à piquer. Le vendredi, ça pique vraiment, vraiment. Et puis, l'entraînement du samedi, c'est un bon coup de pied dans le derrière pour y aller, parce que des fois, c'est dur. C'est dur, donc il y a quand même une certaine résilience qu'ils sont en train de développer, un courage. Et ça, c'est des atouts, même s'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, c'est des atouts qui les forgent, en fait.
Et qui garderont après dans leur vie, quand je dis civile, mais la vie d'après.
Pour leur avenir. Et puis après, on parlait des émotions tout à l'heure, Julie. C'est vrai que les émotions, c'était Sébastien Loeb, celui qui faisait la course auto. Il avait dit une fois que les compétitions de gym, elles étaient particulièrement stressantes. Mais j'avais adoré ce témoignage, parce que c'est vrai que c'est tout le protocole qui est mis en place dans les compètes de gym, où l'athlète, quand il... Des fois, sur certaines compétitions, le speaker va dire, se présente au sol, tel nom, telle personne, il lève le bras devant le public. Et ça, c'est vrai que sur la gestion des émotions, c'est des sacrés apprentissages pour la suite.
Oui, je veux bien croire. J'aimerais pas être comme ça, la vite fait, à leur place. Alors, tu sais que je fais donc une interview un peu triptyque, c'est-à-dire, c'est ça qui m'intéressait justement, c'est d'avoir une vision, en fait, de ce monde du sportif de haut niveau au travers de ta vision à toi, d'entraîneur, au travers de la vision d'un sportif de haut niveau et d'un préparateur mental. Et donc, moi, là, je vais vous poser un peu à tous les trois les mêmes questions, justement, pour voir un peu en miroir les réponses de chacun. Alors, d'abord, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le rapport que tu entretiens, tu vois, avec le sportif. Est-ce que c'est prof-élève ? Est-ce que c'est service à son service, qui est le boss? On en a parlé, mais je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu dessus.
Alors, c'est une relation qui évolue en fait, hein, parce qu'on dit c'est le couple, hein, entraîneur-entraîné. Je pense que dans un couple, ça évolue, c'est-à-dire que des fois il y en a un qui mène la danse, des fois c'est l'autre qui mène la danse, et surtout quand ils deviennent grands en fait, quand ils sont petits, c'est vrai que. C'est un peu le maître et l'élève, vraiment, ouais. Cette notion, le maître, il dit des choses, l'élève écoute, voire le maître, il recadre. C'est comme, moi, j'ai des filles, et elles regardaient La Patte Patrouille à la télé, c'est un dessin animé, et quand j'avais les gyms, qu'ils étaient en sixième, Bah, je les appelais la patte patrouille. Ça courait dans tous les sens. Cyril, on fait quoi ? Cyril, on fait ci, ça, ça, ça. Ça sautait partout, mais j'avais la tête qui tournait à 360 degrés en fin de journée. Mais c'était excellent. Par contre, c'était beaucoup d'énergie. Il fallait être proche d'eux.
Ouais.
Et sans doute que j'ai construit un peu cette relation de proximité à partir de ça, en fait. C'est-à-dire que j'avais tellement peur qu'ils se fassent mal ou qu'ils partent à faire n'importe quoi que j'avais toujours cette attention accrue.
Mm.
Et cette vigilance auprès d'eux. Après, maître-élève, mais c'est l'inverse hein, des fois. Hein, parce que moi, je me rends compte avec des adolescents, au bout du compte, ils nous apprennent des fois beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Et sur la manière dont ils fonctionnent, ben, on n'a pas forcément tout le temps les solutions. Hein, mais par contre, quand on arrive à passer un cap sur la compréhension de l'individu, bah c'est grâce à eux en fait qu'on évolue. Donc du coup, c'est eux qui sont un peu les maîtres.
Hein, les apprenants.
Ouais, c'est nous, on est juste là pour dire ah ouais, tiens, tu fonctionnes de cette façon. Bah heureusement que tu m'as dit ça, hein, parce que si on n'avait pas été dans ce micro conflit, je me serais pas posé ces questions. Et c'est pour ça quoi, il y a quand même un échange. Après, je pense qu'il faut quand même garder la main sur le projet. Mais des fois, il faut se laisser un peu entraîner par l'intuition parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment l'athlète qui est sur la grille. Il ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément. Par contre, nous, on peut quand même lui dire bah, « Moi aussi, j'ai aussi une intuition. » Et je me dis qu'en te connaissant avec les années, peut-être que ça te correspondrait mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est que de l'échange.
Et comment justement tu instaures ce climat de confiance avec le sportif ?
Bah déjà, je pense qu'il y a l'écoute. Mais c'est vraiment une écoute authentique. Hein. C'est ouais, on écoute. Hein. C'est pas on écoute et après on
dit fait ce qu'on veut.
C'est on écoute et on le laisse faire un petit peu. Mais après c'est pas simple. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Mais c'est un peu c'est notre quotidien au bout du compte. C'est-à-dire que il y a avec des personnes ça va super bien passer. Le feeling c'est naturel et d'autres. On n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes représentations. Et l'idée, en fait, c'est qu'il faut trouver les clés. Il faut qu'on trouve les clés pour ouvrir les portes et communiquer avec celui qui est en face de nous. Quoi. C'est pour ça qu'avec Cyril, on a eu la chance de faire un peu de profilage et de comprendre le cerveau, comment il fonctionnait. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important pour mieux communiquer. De toute façon, la communication, elle est la base de tout. Hein. C'est l'athlète, quand il est en difficulté, l'athlète, il a des ressources internes, il peut apporter des solutions. Et nous, on est quand même là pour être facilitateurs. Si, le problème, c'est que des fois, par ego, on a tous été dans ce piège-là, à vouloir... parce qu'on a une idée, en fait. On a une idée, et quand on s'attache à cette idée, c'est là que ça devient un peu dangereux, quoi. Et des fois, les idées, il faut presque les lâcher, ce qui n'est pas évident. Hein. Moi, j'ai fait ces erreurs-là dans le passé et je continuerai sans doute à en faire.
C'est très humain parce que...
Faut essayer de lutter contre ça. En fait, c'est le premier ennemi, c'est nous, en fait, au bout du compte. Mmh. C'est qu'on s'accroche à une conviction, à une idée, on se dit « Ah, ça va l'aider » et on ne lâche pas le truc alors que ce n'est pas forcément ça. Bah, là, on fait fausse route.
Et on peut perdre du temps. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Ok, super intéressant. Comment tu décrirais la mission, en fait, avec le préparateur mental et tu vois la complémentarité que vous avez tous les deux ?
Bah, comme je disais tout à l'heure, on peut... en fait, on doit orchestrer tout ça. La première étape, c'est déjà de bien définir les besoins de l'athlète, les besoins de l'individu. Il a besoin de quoi pour se développer, pour être meilleur ? Si c'est de la préparation mentale, dans cette préparation mentale, il a besoin de quoi ? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à corriger, à apporter des corrections techniques suite aux consignes qu'on lui a données ? Est-ce que c'est parce qu'il a un problème pour gérer ses émotions ? Est-ce qu'il a un problème pour s'activer ? Avant de lever le bras sur un agrès pour se présenter au juge, il est tout mou ou il est trop excité, il a trop peur. Enfin, déjà, c'est la première étape. Il faut vraiment définir le problème. Après, il faut réfléchir, faire des hypothèses, à dire, bah tiens, un préparateur mental pourrait lui apporter quelque chose. Et donc, se rapprocher auprès de ce préparateur mental, c'est déjà d'échanger avec lui. Et il faut le faire rentrer dans la danse. Et c'est là qu'il y a un équilibre qui doit s'instaurer, parce que ça, c'est une conviction, mais un préparateur mental qui va venir et qui va presque prendre la place de l'entraîneur, moi, je ne pense pas que ce soit rendre service à l'athlète, parce que ça va créer de la confusion après. Par contre, l'entraîneur, son rôle, sa mission, à mon sens, c'est qu'il soit très explicite et précis sur la commande qu'il a passée au préparateur mental. Monsieur le préparateur mental, bien qu'il ait toutes les expertises dans son domaine, ce n'est pas un magicien non plus. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration. Et c'est vraiment un triptyque. J'aime bien cette image de triptyque parce qu'au bout du compte, il faut qu'on s'accorde tous les trois, avec l'athlète, le préparateur mental, pour savoir autour de quoi on va travailler. Donc déjà, l'athlète, il faut qu'il reconnaisse ses points forts et ses points faibles. Le préparateur mental, il peut valider ou pas par rapport à ses observations, échanger entre l'entraîneur et le préparateur mental pour savoir qu'est-ce qui est fait dans l'entraînement, parce qu'on peut faire des belles choses, nous, entraîneurs, mais des fois, on peut aussi faire des choses. Moi, j'ai fait des erreurs sans m'en apercevoir. J'avais un athlète. Son cerveau, en fait, il était à fond sur les pensées, en fait. Il pense, c'était comme un ordinateur, un peu l'esprit scientifique, etc. Et moi, qui suis plus sur le feeling, oh, est-ce que tu as ressenti telle chose à tel moment ? Tu sens là le placement de tes bras ? Il m'a écouté un peu, bah, c'est Cyril. Hein. Il m'a dit, Cyril, t'es gentil, mais quand tu dis ça, toi, ça te parle. Mais lui, il comprend rien. Enfin, sincèrement, il a aucun impact parce que son cerveau, il fonctionne pas du tout pareil. Et du coup, là, j'ai écouté, je me suis forcé à... Alors, il y avait le réflexe, hein, forcément, des fois, le naturel. Est-ce que tu... pense à faire ça. Pense plutôt à... Et ça, c'est hyper intéressant.
Et du coup, tu dis un truc, c'est que forcément, pour toi être un bon entraîneur, j'imagine que toi aussi, tu t'es coaché ou pas ? Enfin, ma question derrière, c'est que tu as dû apprendre aussi à te connaître, à savoir quel était ton mode de fonctionnement et donc, du coup, comment tu allais pouvoir communiquer correctement avec les athlètes, non ?
C'est exactement ça, Julie. C'est-à-dire qu'on a fait le profilage à Lyon, on a eu la chance de le faire avec les athlètes, entraîneurs,
et oui, tout le monde. C'est super important.
Les dirigeants... Après, on est dans une culture où, là, je dis des choses, mais on est quand même à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on a les outils, mais on les utilise. Et là, je vais mettre des pourcentages. On est à 10% d'utiliser, en fait. Alors, il ne faut pas être non plus dans l'exclusivité à utiliser que ça, non. Parce que sinon, on dénature notre métier. Mais je pense qu'on pourrait gagner en temps et en énergie à mieux comprendre les individus et surtout aussi à comprendre là où ils sont forts, c'est-à-dire leurs préférences motrices, cérébrales, etc. Et là où ils sont moins à l'aise. Parce que ça éviterait en fait de ne pas s'épuiser au travail. Si chacun est dans sa préférence, non seulement il va être bon dans ce qu'il fait, mais en plus, il va s'épanouir. Alors que s'il n'est pas forcément dans la, on va dire, sa préférence, il va vite être dans le rouge et il ne va pas forcément être pertinent
dans
ses interventions. Et c'est là, je pense, qu'il faut mettre les bonnes personnes.
Mais c'est là où on reboucle avec l'équilibre, avec le plaisir.
Tout à fait, ouais.
Donc, on est bien dans ce sujet-là. Alors, plus personnellement, en fait, comment toi, tu gères la frustration de ne pas faire ? C'est-à-dire que tu entraînes, mais ce n'est pas toi qui rentres sur la compète. Tu ne peux qu'à ce moment-là précis être dans l'observation. Ce n'est pas frustrant, ça, des fois ?
Alors, frustrant, non, parce que la carrière, j'ai fait de la gym. Et après, c'est le projet du gym, en fait. Hein. Il monte sur la grée, c'est lui qui va... Par contre, en toute honnêteté, c'est un peu le travail de l'entraîneur, mais aussi de tous ceux qui gravitent autour de l'athlète, qui va se manifester en l'espace d'un passage, quelque part. Donc déjà, il y a un regard un peu extérieur qui va être un peu là à évaluer la production, on va dire. Après, sur l'aspect frustrant, je dirais...
Mais c'est pas tant que tu rêverais d'être à leur place. C'est de dire, oh, moi, si j'avais été là, j'aurais fait différemment. Tu vois, c'est que tu n'es pas au bout de la manette. Tu vois, c'est eux qui font.
En toute honnêteté, il y a des choses qui font que je faisais pas. Hein, donc, je crois pas que... Non.
Là, j'avais pas vu ça comme ça, t'as raison.
Le niveau gymnique a évolué quand même.
Oui.
Après, il y a aussi des choses que je faisais et qu'ils ne font pas. Hein. Mais ils ont construit leur mouvement qui correspond à leur qualité, etc., avec leurs points forts. Donc, nous, on est là, c'est pour les pousser au maximum. Après, c'est vrai que quand il y a une chute, on va dire un peu bête, qui ne fait pas forcément à l'entraînement, oui, ça génère toujours une frustration. Mais après, cette frustration, je pense qu'il faut faire ce retour à soi, à dire, bon... Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on va faire évoluer, etc. Et pour en revenir encore à Anatoly Voronzov, là où je l'admire, c'est que lui, il fait une compétition, ça se passe bien, ok, ça se passe pas bien, il tourne la page, une capacité à tourner la page, à rebondir pour aller de l'avant. Et je pense que ça, c'est la bonne démarche à avoir.
Et comment tu gères le stress de la compétition? T'es comment, toi, pendant les... Tu ne vis plus?
Je suis une cocotte minute, je pense. Je suis une cocotte minute, c'est-à-dire, alors, il y en a pas mal qui me disent ouais, ça se voit pas trop à l'extérieur, mais à l'intérieur, si,
ça bouillonne.
Ça dépend les compétitions. J'ai eu la chance une fois de faire un championnat du monde junior que j'ai partagé avec Mathieu Tixier, qui est un entraîneur à Lyon. Je vais être grossier, mais moi, je me suis chié dessus. Hein. Quand je suis rentré sur le plateau, il y avait les Japonais, les Chinois, ça tapait dans tous les sens. Mais c'était. Par contre, un peu ce qui est paradoxal, c'est qu'une fois que c'était fini, c'est comme le saut en parachute. Une fois, j'ai fait un saut en parachute, j'ai cru que c'était mon dernier jour. Voilà. On sortait sur l'aéroport comme dans Armageddon, on se croyait des héros et quand on était dans l'avion, on se dit mais qu'est-ce qu'on a eu comme idée?
Redescendez-nous.
Et en fait, quand j'ai fini, je suis arrivé au sol, j'ai dit mais je vais remonter dans l'avion tout de suite, quoi. Je vais refaire maintenant. Et ben là, ça a généré la même sensation. Donc oui, il y a de la peur. Après, je crois qu'on aime ça, en fait.
Oui, c'est ça. C'est qu'on en devient presque accro à cette adrénaline. Ouais, Alors, est-ce qu'on peut exercer aussi ce métier à tout âge?
À tout âge, je pense qu'il faut de l'expérience, un petit peu. Il faut commencer... Moi, je vois, il y en a, ils ont 76 ans. Ils sont encore excellents dans ce qu'ils font. Après, effectivement, il y a peut-être les facultés physiques et mentales avec la force de la vie, la force des choses qui fait que ça diminue. Mais je pense qu'on n'a pas parlé de l'adaptation. C'est une qualité que les athlètes développent, mais je pense aussi que les entraîneurs la développent. Parce que tout au long de leur carrière, ils s'adaptent en fait à ce que leur corps peut encore produire.
À leur propre aptitude, quoi.
Bien sûr. Peut-être qu'il y a des parades qui sont un petit peu moins, donc on trouve des astuces pour porter un peu moins, parce qu'on ne peut plus avec le temps. Après, ça dépend des trajectoires. Moi, j'ai commencé à 25 ans. Il y en a, ils commencent plus jeunes. Ceux qui commencent plus jeunes, je les encourage. On a besoin de sang neuf, on a besoin de jeunes entraîneurs aujourd'hui. Donc, il faut commencer avec la passion, surtout. La passion et l'envie d'accompagner l'athlète.
Alors, quelle évolution justement de métier tu peux faire quand imagine, bon, tu sens que tu es arrivé à la fin de ta carrière d'entraîneur. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on n'est pas à la retraite? Enfin, si, potentiellement, mais si ce n'est pas le cas, tu vois, quelle autre passerelle il existe, en fait?
Alors, il peut y avoir... soit on reste dans la salle, et du coup, on est plus sur un aspect managérial, à gérer des ressources humaines, donc à manager une équipe d'entraîneurs, par exemple.
OK.
Donc... Bon, c'est le rôle de l'entraîneur national. Il y a le directeur du haut niveau aussi qui pilote un petit peu toute cette stratégie pour mener au plus haut les équipes de France. Après, si on veut vraiment sortir de l'aspect sportif, il ne faut pas oublier que le projet, il ne peut être piloté s'il n'y a pas des personnes qui le managent un peu d'en haut, quoi. C'est-à-dire tout l'aspect logistique, organisationnel, administratif. Nous, là, on a un coordonnateur qu'on appelle un responsable Pôle France, Benoît Baglin. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas être dans les meilleures conditions pour s'entraîner. Parce qu'il faut gérer toutes les problématiques liées à la scolarité, au médical, les transports quand on va en compétition, l'hôtel, etc. Enfin, il y a plein de choses à gérer, en fait, notre activité.
Okay.
Donc, en fait, je pense qu'il y a différents cœurs de métier qui gravitent autour pour accompagner les athlètes.
Ok. C'est quoi le truc que tu rêves d'atteindre en tant qu'entraîneur?
En tant qu'entraîneur?
Ouais. Là,
C'est... C'est un peu un jardin secret, hein, mais bon, oui, effectivement, comme beaucoup, ça serait de voir un athlète qui fait une finale olympique.
Tu m'étonnes.
C'est, même si ce n'est pas moi qui l'entraîne, mais j'ai eu la chance de le côtoyer pendant une période de sa formation, ça sera un aboutissement, mais pas non plus un aboutissement, parce qu'au bout du compte, c'est une continuité. Mais j'aurais l'impression d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice. Et ouais, ça donne de la satisfaction pour se motiver, en fait. Hein.
Mm.
Et ça, c'est vrai que c'est... Mais bon, après, je pense qu'il faut... Je pars de quelque chose, moi, qui m'a nourri, en fait. C'est-à-dire que Pékin, c'était un élément déclencheur. Quand Thomas Boy a fait vice-champion olympique au saut et Benoît Caranob, qui est de ma génération, on est né la même année, a fait troisième au concours général, et ça, c'était énorme, vraiment, d'un point de vue historique sur notre discipline. Bah, je me suis dit, mais cette aventure humaine, qu'est-ce que j'aimerais la vivre, quoi. Ouais. Voilà. Donc après, je la vivrai ou pas, peu importe. Aujourd'hui, ce qui me nourrit, c'est plus le quotidien que cette prospective qui est incertaine. On verra bien. Mais si ça doit se faire...
Enfin, il y a des belles échéances à venir, en
voilà,
tout cas.
Voilà, ouais. Ça serait chouette. Ça serait chouette.
Quelles sont tes joies et tes fiertés d'exercer cette activité?
Alors, les joies, c'est déjà exercer le métier et ma passion en même temps. Ça, c'est quand même une chance, hein. La fierté aujourd'hui c'est d'être dans l'un des plus beaux établissements de France et puis de pouvoir utiliser toutes les expertises autour de moi.
Et à l'inverse, quelles sont les difficultés que tu rencontres?
Les difficultés, il ne faut pas avoir envie de partir en vacances toutes les deux semaines, de vouloir des week-ends complets, d'avoir du temps pour soi.
Et selon toi, quelles sont les qualités nécessaires?
Déjà, il faut être passionné, parce que c'est une histoire de transmission. Transmettre des choses qu'on a vécues, bonnes, mais comme moins bonnes. C'est-à-dire, ça peut être... On a vécu des choses difficiles dans notre pratique personnelle, et on se dit, eh ben ça, je n'ai pas envie qu'ils vivent les mêmes choses. Du coup, on va organiser notre activité pour justement épanouir davantage les athlètes.
Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer cette activité-là?
Alors, le premier conseil, déjà, c'est de commencer sur la cellule de base, c'est le milieu associatif, c'est le club. C'est-à-dire, on a tous commencé quelque part et il est important de faire vivre ces clubs parce que c'est un peu la cellule de base. Hein. Si le club est en bonne santé, du coup, ça produit des champions, etc. Et après, c'est se former, en fait. Se former soit d'un point de vue informel, avec des personnes qui sont reconnues compétentes dans chaque domaine, mais aussi d'un point de vue formel, avec des vraies formations qui sont soit proposées par les fédérations françaises ou bien des formations d'État ou aller à la fac. Tout dépend en fait les cursus.
Écoute, un grand merci de t'être prêté à cet exercice.
Merci à toi, Julie.
Avant de se quitter, en fait, j'ai un rituel. Que je demande... Non, pas de chanter, t'inquiète. Mais je demande à mes invités, en fait, de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier.
Premier métier qui me vient, là, c'est prof de yoga, en fait.
OK.
C'est pas forcément celui que je t'avais dit la dernière fois.
Ouais.
J'étais plus sur le plongeur.
Exactement. Hein.
Mais prof de yoga, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu collective de la société où... ça va super vite, ça s'accélère, on n'a pas de temps pour soi, il faut être tout le temps dans la production. Et en même temps, on se dit, y a peut-être moyen de prendre un peu soin de soi. Et en faisant ça, on va être un peu plus productif, on va durer plus longtemps. Mmh. Et en fait, ce changement de conscience, je trouve que ce sont des fervents défenseurs, les profs de yoga, parce qu'ils sont en train d'intégrer des notions... hyper intéressante. Moi, j'ai appris la biotenségrité. Je ne connaissais pas sur les fascias, comment ça fonctionnait dans notre corps. Et je pense qu'il faut intégrer ces gens-là, surtout tous les métiers, en fait. Peu importe le métier qu'on fait. Mmh. Ça peut, pour mieux prendre soin de soi ou mieux apprendre à se connaître, mieux gérer nos émotions. Et voilà. Prof de yoga,
je n'ai pas fait.
Ils ont un rôle à jouer pour notre bien-être dans l'avenir.
Je sens que je vais contacter la sœur de Cyril. Quelque chose me dit.
C'est un très bon choix.
J'ai l'impression, effectivement. Un grand, grand merci, Cyril. Et puis, je te dis à très, très vite.
Merci.
J'espère sincèrement que cet épisode sur le sport de haut niveau avec Cyril vous aura autant passionné que moi. Pour suivre toute l'actualité de la Fédération de gymnastique artistique masculine et de l'INSEP, rendez-vous sur leur compte Instagram, FF Gymnastique et INSEP Officiel. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. Alors, cet épisode marque la fin du triptyque sur le sport d'un niveau, mais aussi la fin de la saison 2. On va faire une petite pause une trêve festive pendant les vacances de Noël et on reprendra courant janvier, je vous préciserai la date, avec des nouveaux invités que j'ai déjà commencé à interviewer et cette nouvelle saison, normalement, elle devrait vous plaire, enfin je l'espère, voilà. Bon, d'ici là, bah, je vous souhaite d'abord une très très bonne semaine à tous et surtout des super belles fêtes de fin d'année, remplies de joie, de bonheur, de plein de choses à manger et surtout de plein de super moments avec vos proches. Voilà. À très vite. Salut.